Est-ce que vous savez combien de commandements la tradition juive a répertorié dans la Torah? 613. 613 commandements que tout juif s'engage normalement à respecter. D'après la tradition, ces 613 commandements, ça fait 248 choses à faire et 365 choses à ne pas faire. Donc 248 choses à faire, d'après la tradition, ça correspond au nombre de membres dans le corps humain. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Et 365 choses à ne pas faire, ça correspond, vous l'aurez compris, 365 au nombre de jours dans l'année. Voilà, ça en fait du pain sur la planche, non? Voilà de quoi occuper un homme toute sa vie. Mais en fait, mes amis, en fait, 613 commandements, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Si on considère le nombre total de commandements, c'est-à-dire d'impératifs, dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, vous savez combien il y en a? Il n'y en a pas 613, il y en a 6468. 6468, soit en moyenne un ordre tous les 5 versets. Ça, mes amis, c'est du sérieux. Et c'est pas étonnant si beaucoup de gens ont l'impression que Dieu est un rabat-joie. Et c'est pour cette raison que croyants et non-croyants ensemble, d'ailleurs, portent souvent sur la vie chrétienne un regard bien peu enthousiaste. Bien peu enthousiaste. Un peu, si vous êtes de ma génération, un peu comme Jordi le chantait il y a quelques années. Vous vous souvenez de Jordi, le chanteur qui était bébé? À 4 ans, il chantait les paroles suivantes. « Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. » C'était en 1992. Et oui. « Viens ici, touche pas ça, reste assis, va pas là, fais comme ci, fais comme ça, patati et patata. C'est dur, dur d'être un bébé. » Ça, c'était le refrain. « C'est dur, dur d'être un bébé. » Mais remplacez bébé par chrétien. « Viens ici, touche pas ça, reste assis, va pas là, fais comme ci, fais comme ça, patati et patata. C'est dur, dur d'être un chrétien. » Et oui, Dieu donne des ordres dans la Bible, et même beaucoup d'ordres. Dieu fait connaître sa volonté aux hommes qu'il a créés. Et ça fait partie de ses prérogatives, non? C'est Dieu, quand même. Et en même temps, cette idée qu'on a d'un Dieu tyran, d'un Dieu moralisateur, d'un père fouettard, qui n'a que des reproches à nous faire, elle a vite fait de nous rebuter. Et de rebuter particulièrement les non-croyants qui observent et qui regardent. Et cet après-midi, vous faites peut-être partie des gens qui pensent que ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on soit des bonnes personnes. Vous lisez quelques commandements de Dieu et vous vous dites qu'il faut vraiment être très fort pour être un chrétien. Chapeau. Vous regardez autour de vous, peut-être même en ce moment, et vous vous dites que vous n'arriverez jamais à obéir à la loi de Dieu comme le font tous ces gens qui sont si beaux. Et peut-être pire encore, vous vous dites que vous n'avez même aucune envie d'obéir à un despote, de gagner vos galons et de finir hautain et suffisant comme semblent l'être beaucoup de chrétiens. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Le problème, c'est que cette perception qu'on a de la loi de Dieu est complètement tordue. Elle est complètement tordue. Elle est même fausse, totalement fausse, et elle est même contraire à la loi de Dieu elle-même. C'est quand même un comble. On a vu la semaine dernière qu'une des raisons pour lesquelles Paul a écrit cette lettre à Timothée, c'était pour dénoncer certains enseignements qui circulaient dans l'Église mais qui étaient contraires à la vérité. Et un de ces faux enseignements concernait précisément la loi de Dieu. Particulièrement l'usage de la loi de Dieu dans la vie chrétienne. Autrement dit, comment on doit percevoir, lire et comprendre ces centaines voire milliers d'impératifs que Dieu nous livre dans la Bible. Et la leçon que Paul veut transmettre à Timothée et aux membres de son église, l'église d'Éphèse, je vous le rappelle, mais par la même occasion, la leçon qu'il veut nous transmettre à nous cet après-midi, c'est la suivante, c'est que la loi de Dieu n'a pas pour but, à proprement parler, de faire de nous des bonnes personnes. La loi de Dieu n'a pas pour but, à proprement parler, de faire de nous des bonnes personnes, mais la loi de Dieu est censée alimenter notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Elle est censée alimenter notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Tiens, ça c'est bizarre, non? Comment ça marche? Essayons de suivre le raisonnement de Paul dans ce passage. D'accord? Je vous demande de bien vous accrocher, de garder votre Bible ouverte au fur et à mesure du message, parce qu'on va s'y référer souvent. Lisons le texte. C'est 1er épître de Paul à Timothée, 1er chapitre. On va lire un peu plus de versets que la semaine dernière. On va lire du verset 5 au verset 11. Je vous rappelle que nous lisons la parole inspirée de Dieu. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui, en outre, est à l'opposé de la saine doctrine. D'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. On va s'arrêter là pour la lecture, je vous invite à la prière. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta parole qui a tant à nous apprendre. Et nous te prions maintenant de bien vouloir sanctifier nos cœurs pour les rendre attentifs à la voix de l'Esprit-Saint. Attentifs et disponibles pour qu'il réalise en nous l'œuvre que toi, Seigneur, tu as conçue pour nos vies. Seigneur, aide-nous à te laisser prendre les rênes de notre vie. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. La loi, donc, la loi de Dieu est censée alimenter notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Comment ça marche? La première chose que fait Paul dans ce passage, c'est de soulever l'enjeu de la question. Il va soulever l'enjeu de la question, l'enjeu du débat sur la fonction de la loi de Dieu dans la vie chrétienne. Voilà, il va soulever l'enjeu. Et c'est un enjeu très important. Paul rappelle dans un premier temps à Timothée que ce qui est censé caractériser la vie chrétienne, c'est l'amour, dit-il. L'amour. L'amour, dans son sens absolu, quand il est cité comme ça, ça désigne aussi bien l'amour pour Dieu que l'amour pour le prochain. D'accord ? Mais à cause de certaines personnes qui dispensent un faux enseignement dans l'Église, Paul est en train de dire que cette réalité, l'amour caractéristique de la vie chrétienne, eh bien, elle est compromise dans l'Église d'Éphèse. Elle est compromise. Il en va donc ici de l'authenticité même du christianisme. C'est d'autant plus grave que ces gens qui dispensent ce faux enseignement se prétendent spécialistes de la loi de Dieu. Docteur, est-ce loi de Dieu? Mais le verdict de Paul est sans appel, ces gens-là sont en réalité complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Ils ne comprennent même pas ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment avec force. La loi de Dieu a un but précis, c'est l'amour caractéristique de la loi chrétienne, de la vie chrétienne, d'où l'extrême importance de ne pas faire croire n'importe quoi en ce qui concerne la loi de Dieu. Donc Paul, dans un premier temps, soulève l'enjeu. L'enjeu, c'est l'amour qui doit être caractéristique de la vie chrétienne. Paul dénonce par conséquent des gens qui se disent spécialistes, mais qui en réalité sont incompétents dans le domaine dans lequel ils se disent spécialistes, et par conséquent, puisqu'ils sont incompétents, ils sont aussi dangereux, parce que l'enjeu est si important. Il y a quelques années, il y a eu tout un débat en France, vous vous en souvenez peut-être, sur le nombre sans cesse croissant de gens qui se déclaraient spécialistes dans un certain domaine. Et ce domaine, c'était la psychothérapie. Et ces gens-là s'attribuaient des titres tels que les suivants. Psychosomaticien. Ça en jette quand même, hein. Psychosomatothérapeute. Pas mal ça sur une plaque à l'entrée de votre maison. Hein. Psychosomatoanalyste ou encore psychorelaxologue, etc., etc. Les autorités ont constaté bien souvent les dégâts parfois occasionnés par de prétendus spécialistes qui étaient en réalité incompétents dans ce domaine. Si bien que depuis le 1er juillet 2010, c'est assez récent, le titre de psychothérapeute est protégé par la loi maintenant. Pour pratiquer, il faut être inscrit au registre national des psychothérapeutes, il faut avoir suivi une formation en psychopathologie et il faut avoir fait un stage clinique. Et comme on peut le lire sur le site internet psychologue.fr, je cite, « La santé mentale est un bien précieux, il convient d'y prendre garde et de n'aller consulter que des personnes qualifiées. » De façon similaire dans le texte, Paul est en train de dire ici « La loi de Dieu » est un bien précieux, il convient d'y prendre garde et de n'aller consulter que des personnes qualifiées. Parce que l'enjeu est important. Hein? L'enjeu est important. Dans l'Église aussi, on a des gens qui se disent enseignants. Hein? On a des gens qui portent ce titre. Moi-même, je suis pasteur. Il y a des gens qui se disent spécialistes. Des gens qui se disent docteurs de la loi, entre guillemets. Il y a même des gens qui se disent apôtres et prophètes aujourd'hui. Bon. Mais vous savez, on ne peut pas faire croire n'importe quoi sur la loi de Dieu, parce qu'on risque de compromettre son but. Et ce but est extrêmement important et précieux, parce qu'en fin de compte, il s'agit de cet enjeu important qui est l'amour, caractéristique de la vie chrétienne. Autrement dit, si on se trompe sur la loi de Dieu, on risque de corrompre tout le christianisme, d'accord ? On ne peut pas dire ni faire n'importe quoi avec la loi de Dieu. Et on va voir dans un instant quel est, selon Paul, le bon discours sur la loi de Dieu, d'accord ? Mais avant ça, je voudrais tirer une première application de ce premier point, de ces premiers versets de ce passage. Cet avertissement de Paul au sujet de prétendus spécialistes de leur domaine, d'accord, de la loi de Dieu, cet avertissement doit nous inciter, à notre tour, aujourd'hui, en 2010, bientôt 2011, doit nous inciter à la plus grande prudence vis-à-vis de tout message soi-disant chrétien qui traite de la loi de Dieu en particulier. Comme d'ailleurs, par exemple, la prédication que je suis en train de vous donner maintenant. Méfiez-vous de ce que je suis en train de vous dire, parce que l'enjeu est important. Soyez prudents. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il ne suffit pas de trouver un livre dans une librairie chrétienne pour que son contenu soit en conformité avec le véritable christianisme. Il ne suffit pas d'entendre une prédication sur une chaîne chrétienne du satellite pour que son message soit fidèle à Dieu. Comment est-ce qu'on peut mesurer la légitimité d'un enseignant dans l'Église ? On en a parlé la semaine dernière. On mesure la légitimité d'un enseignant dans l'Église à sa fidélité à l'Écriture sainte et à rien d'autre. Mais revenons à la question qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Si le but de la loi de Dieu, c'est effectivement l'amour, comment est-ce qu'on arrive d'une longue liste de commandements d'un côté à cet amour authentique pour Dieu et pour son prochain? Quel est le bon discours au sujet de la loi de Dieu qui va non pas compromettre ce but, mais nous permettre de l'atteindre? Et bien c'est mon deuxième point. Maintenant que Paul a soulevé l'enjeu du débat, un enjeu important, il va entrer dans le vif du sujet. Et il va évacuer un premier malentendu qui consisterait à dire, et vous avez probablement déjà entendu ça, peut-être même que vous l'avez déjà pensé, un malentendu qui consisterait à dire que pour pouvoir être animé d'un véritable amour pour Dieu et pour les autres, il faut laisser tomber la loi de Dieu, synonyme de régime dictatorial. Donc c'est contre l'amour. Pas du tout. Pas du tout. Pour Paul, la loi de Dieu sert précisément à alimenter notre amour pour Dieu et pour notre prochain, à condition d'en faire un usage légitime. Vous avez remarqué ce qu'il a dit au verset 8. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Mais la loi est bonne. D'accord ? C'est pas quelque chose à évacuer. On ne doit pas laisser tomber la loi de Dieu parce que, d'après nous, c'est synonyme de régime dictatorial. Au contraire, la loi de Dieu est censée alimenter notre amour pour Dieu et pour notre prochain, à condition d'en faire un usage légitime. Vous avez remarqué, c'est intéressant, légitime, ça veut dire quoi ? Ça veut dire selon la loi, étymologiquement. C'est le cas aussi en grec. Donc il faut user de la loi selon la loi elle-même, en conformité avec elle-même. Et voici quel est cet usage légitime, d'après Paul. Il consiste à savoir, pour commencer, point de départ, il consiste à savoir que la loi n'est pas destinée aux justes, mais aux méchants. La loi n'est pas destinée aux justes, mais aux méchants. Tiens, c'est intéressant. Et pourtant, il y a une certaine logique dans cette affirmation. À quoi ça sert, par exemple ? À quoi sert, par exemple, la limitation de vitesse sur une autoroute ? Elle n'est pas là pour ceux qui roulent à 110, mais elle est là pour ceux qui roulent à 150. Elle n'est pas là pour montrer à ceux qui roulent à 110 qu'ils sont en train de bien faire. Elle est là pour montrer à ceux qui roulent à 150 qu'ils sont en train de mal faire. C'est ça le but des panneaux de signalisation sur la route. Si tout le monde conduisait avec une parfaite prudence et une parfaite courtoisie, le code de la route n'aurait pas de raison d'être. On est d'accord ? Si tout le monde se comportait de façon parfaitement altruiste, aimable et généreuse, même le code pénal n'aurait pas de raison d'être. C'est pas vrai? Paul est en train de dire ici, dans ce texte, que la raison d'être de la loi de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. C'est la méchanceté des hommes. Voilà pourquoi il y a la loi de Dieu. Dieu a donné sa loi pour montrer aux hommes ce qu'ils font de mal. Pas pour leur montrer ce qu'ils font de bien. Le problème des docteurs de la loi, pardon, entre guillemets, dans ce texte, le problème des docteurs de la loi dans ce texte, c'est le même que celui des pharisiens dans les évangiles, en fait. C'est qu'ils utilisent la loi de Dieu pour se glorifier plutôt que pour s'humilier. Ils voient la limitation de vitesse, pour ainsi dire, d'accord, ils conduisent sur la route, ils voient la limitation de vitesse, ils regardent leur indicateur de vitesse, ils constatent qu'ils sont en dessous et ils en tirent une grande fierté. Ils s'arrêtent au feu rouge et même au feu orange et ils sont contents, contents de l'opportunité de montrer qu'ils sont honnêtes et droits. D'accord ? Ils lisent le code pénal tous les soirs avant de se coucher, afin d'en connaître toutes les plus petites subtilités, et alors ils s'endorment paisiblement en pensant à leur incroyable intégrité morale. Plus sérieusement, ces gens-là voient dans la Bible les instructions de Dieu concernant le culte, les prières, le sabbat, la dîme, l'aumône, et alors le sentiment de leur propre justice ne fait qu'enfler de plus en plus. Mais pour Paul et pour Jésus, ces gens-là sont en fait en train de pervertir la loi de Dieu. Ils pervertissent la loi de Dieu parce que la loi de Dieu n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. La loi de Dieu n'est pas là pour nourrir le sentiment de justice des hommes. Mais elle est là pour révéler aux hommes leur propre péché. Jésus a remis les choses à leur place, vous vous souvenez, dans le fameux sermon sur la montagne, où il a montré que les exigences de la loi de Dieu, dépassaient de loin tout ce que même le plus zélé des pharisiens pouvait accomplir. Il suffit de se mettre en colère contre son frère pour être passible du jugement réservé aux meurtriers, d'après Jésus. Il suffit de regarder une femme avec convoitise pour se rendre coupable d'adultère avec elle dans son cœur, d'après Jésus. Vous voyez que la loi de Dieu, elle est là pour nous humilier. Elle n'est pas là pour nous glorifier. Elle est là pour nous humilier. L'usage légitime de la loi consiste donc déjà au départ, pour commencer, à lui reconnaître cette fonction. La loi est là pour révéler notre péché. Dans ce passage, Paul, j'ai l'impression, est en train d'opposer un formidable argument à ses adversaires. Il me semble que ce que Paul est en train de faire, c'est de placer un peu ironiquement ces fameux faux docteurs devant un choix cornélien. Soit vous vous considérez comme des gens justes, intègres et droits. Et dans ce cas, vous devez reconnaître que la loi de Dieu, par définition, ne vous concerne pas. Soit vous considérez que la loi de Dieu vous concerne. Et dans ce cas, vous reconnaissez par définition que vous appartenez à la deuxième catégorie de personnes. Les méchants, les indisciplinés, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui, en outre, est contraire à la saine doctrine, dit-il. Mais vous, ce soir, mes amis, et moi, comment vous positionnez-vous? Comment nous positionnons-nous ce soir? Est-ce que vous lisez les commandements de Dieu pour y fonder votre propre justice? Ou bien est-ce que vous lisez les commandements de Dieu pour y découvrir votre propre méchanceté? Si vous utilisez la loi de Dieu pour vous glorifier, ce n'est pas son usage légitime, d'après Paul. Et c'est tout votre christianisme que vous êtes en train de corrompre. La loi de Dieu est là pour vous révéler votre péché et pour me révéler le mien. Et pour vous montrer que vous appartenez bel et bien, comme moi, à la deuxième catégorie de personnes dans ce texte. En compagnie des meurtriers, des trafiquants d'esclaves, des terroristes et des pédophiles. Mais là, vous vous dites, d'accord, la loi de Dieu est destinée à révéler mon péché. Ok, mais j'ai du mal à voir comment tout ça est censé alimenter mon amour pour Dieu et pour mon prochain. En fait, à ce stade, je suis encore plus rebuté par la loi de Dieu que quand on a commencé. attendez, ne partez pas tout de suite, parce que je n'ai pas fini, et Paul non plus n'a pas fini dans ce texte, parce qu'il s'empresse d'ajouter un élément ô combien déterminant. Et c'est mon troisième et dernier point. Cet élément déterminant, il le mentionne en termes presque dithyrambiques. Il s'agit, dit-il, du glorieux évangile du Dieu bienheureux, ou dans d'autres traductions, l'évangile de la gloire du Dieu béni. C'est une explosion, c'est un feu d'artifice dans son texte. On voit que pour Paul, il s'agit ici de quelque chose d'important, ô combien important. Paul est en train de dire qu'il faut savoir, oui, que la loi de Dieu est faite pour les méchants, c'est-à-dire pour révéler le péché des hommes, mais qu'il ne faut pas considérer cette réalité indépendamment de ce qu'il appelle dans le texte l'évangile. L'évangile. La loi de Dieu est indissociable de ce que Paul appelle l'évangile. Si on veut faire bon usage de la loi de Dieu, il faut la considérer selon sa véritable fonction, mais aussi à la lumière de ce que Paul appelle l'évangile. L'évangile est le complément de la loi de Dieu, un complément inséparable. Sans l'évangile, il est impossible de faire bon usage de la loi de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile dont parle Paul? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sûr que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'évangile, en grec, ça veut dire tout simplement une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Étant donné ce que Paul a dit concernant la fonction de la loi de Dieu qui doit nous révéler notre péché, on imagine qu'à ce stade de son raisonnement, on ait effectivement besoin d'une bonne nouvelle, parce que pour l'instant, ça a été plutôt des mauvaises nouvelles. On a besoin d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle glorieuse, une bonne nouvelle qui vient du Dieu bienheureux. Mais justement, la nouvelle de l'Évangile n'est bonne que parce qu'elle est précédée d'une mauvaise nouvelle. La nouvelle de l'Évangile n'est bonne que parce qu'elle est précédée d'une mauvaise nouvelle. Il existe pas mal de blagues sur les bonnes et les mauvaises nouvelles. Vous en connaissez peut-être quelques-unes. Moi, j'en connais quelques-unes, mais Suzanne ne les trouve pas du tout drôles. Mais je vous les livre quand même, vous me direz ce que vous en pensez, si vous comprenez même, je ne sais pas. Un chirurgien rend visite à son patient après qu'il lui ait amputé une jambe, et il lui dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » La mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'est trompé de jambe. La bonne nouvelle, c'est que votre voisin de chambre aimerait vous racheter vos baskets. Ou encore, c'est l'histoire d'un avocat qui rencontre son client, et qui lui dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a identifié votre ADN dans les traces de sang qui se trouvent sur la scène du crime. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un très petit taux de cholestérol. Ou encore, c'est un jeune garçon, et vous comprendrez plus tard. Ou encore, c'est un jeune garçon qui écrit à ses parents depuis le pensionnat. Cher papa et maman, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en cours de chimie, j'ai mis le feu au pantalon de mon camarade. J'ai essayé d'éteindre les flammes avec un extincteur, mais la pression était tellement forte que j'ai arrosé toute la classe. Le professeur était tellement en colère qu'il a fait un malaise et qu'il a dû être emmené à l'hôpital, dans une ambulance. Et comme j'ai eu peur d'être grondé, je me suis enfui et la police m'a retrouvé dans la forêt 5 jours plus tard, complètement affamé et en hypothermie. La bonne nouvelle, c'est que tout ça n'est pas vrai. J'ai juste eu 5 sur 20 en mathématiques. Tout récemment et plus sérieusement, cette fois, Suzanne et moi, on a fait une expérience un peu similaire. D'accord ? Pendant son dernier séjour aux États-Unis, Suzanne a dû emmener notre bébé, Val-Louise, aux urgences. Quelques jours plus tard, on a eu une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la facture d'hôpital pour 2 heures passées en observation s'est levée à $600. La bonne nouvelle, c'est que l'assurance médicale de la carte bleue allait prendre en charge la dépense. Mais vous voyez, souvent, les mauvaises nouvelles mettent en perspective les bonnes nouvelles et vice-versa. Les mauvaises nouvelles mettent en perspective les bonnes nouvelles et vice-versa. Et de la même façon dans le raisonnement de Paul ici, la mauvaise nouvelle de la loi qui révèle notre péché, cette mauvaise nouvelle met en perspective la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quelle est cette bonne nouvelle? Paul la donne explicitement quelques versets plus loin, on l'a pas lu, mais on étudiera ce passage dans 2 semaines. Verset 15 du même chapitre, voici ce qu'il dit. « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. » Dans quelle catégorie de personnes Paul se place-t-il? se situe lui-même. Parmi les justes ou parmi les pécheurs? Parmi les pécheurs, dont il est, dit-il, le premier. C'est la mauvaise nouvelle pour Paul. Il est le premier des pécheurs. Mais Paul ajoute que Jésus est venu dans le monde pour prendre sur lui le châtiment qui est réservé aux pécheurs. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Jésus, le seul juste, le seul en fait qui appartient dans la première catégorie de personnes, le seul juste, lui est mort sur la croix à la place des pécheurs. Dieu a déversé sur Jésus, par amour pour nous, toute sa sainte colère contre les péchés, aussi ignobles soient-ils, des hommes, des femmes et des enfants qui placent leur confiance en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Vous voyez donc que l'évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait en mourant pour les croyants et en ressuscitant pour les croyants, c'est le complément indispensable de la loi de Dieu. La loi de Dieu révèle notre péché et nous place devant notre besoin d'être sauvés. L'évangile apporte la réponse à ce besoin et invite à la foi en Jésus. Jésus, sur la base de ce qu'il a accompli à la croix, ensuite, si nous plaçons notre confiance en lui, il crée en nous un cœur pur et une bonne conscience. Et de cette foi authentique, alors découle un amour profond pour Dieu et pour notre prochain. Voilà quel est l'usage légitime de la loi de Dieu. La loi de Dieu et l'évangile ne sont pas opposés, comme parfois on aimerait nous le faire croire. La loi et l'évangile ne sont pas opposés, mais ils marchent main dans la main. Pour conclure, vous voyez donc pourquoi on peut dire que la loi de Dieu est censée alimenter notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Si vous en faites un usage légitime, la loi de Dieu ne vous rebutera pas. Elle ne vous découragera pas, la loi de Dieu. La prochaine fois que vous êtes amené à considérer les commandements de Dieu dans la Bible, vous vous souviendrez, tout d'abord, que le but ultime de la loi de Dieu, c'est l'amour. L'amour caractéristique de la vie chrétienne. Et vous vous direz que l'enjeu est important et que vous n'allez pas faire n'importe quoi avec ces commandements de Dieu. Ensuite, vous penserez au fait que ces commandements sont là pour vous montrer quelles sont les exigences de Dieu, certes, mais surtout pour vous montrer que vous êtes fondamentalement incapable de les accomplir, ces exigences. Mais vous ne vous arrêterez pas là, parce que ça, c'est la mauvaise nouvelle. Vous vous souviendrez également que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont vous êtes, vous, le premier. Et cette réalité vous conduira à porter les regards vers Jésus et à placer votre confiance en lui. Vous découvrirez alors, ou peut-être que vous redécouvrirez, que Dieu, effectivement, selon sa promesse, il est fidèle et juste pour vous pardonner vos péchés et vous purifier de toute injustice. Et de cette foi sans hypocrisie dont Paul a parlé au verset 5, de cette foi sans hypocrisie, de cette bonne conscience, de ce cœur pur que Jésus aura créé en vous, découlera chez vous un véritable amour pour Dieu et pour votre prochain. Vous serez si profondément reconnaissant à Dieu que votre vie en sera transformée. Vous voyez, il y a des gens qui considèrent les 6468 commandements de la Bible et qui disent « La loi de Dieu nous montre ce qu'on doit faire pour être une bonne personne, alors obéissons. » Ce n'est pas l'usage légitime de la loi selon Paul. Ce raisonnement, en fait, court-circuite l'Évangile. Il fait abstraction de l'Évangile. Et il dénature complètement le christianisme. Ce qu'il faut se dire plutôt, c'est ça. C'est ce qui suit. La loi de Dieu nous montre quel est notre péché afin de nous conduire à Jésus, qui nous invite à la foi, dont procède l'amour, qui à son tour motive notre obéissance à Dieu. Simple, non ? Je répète. La loi de Dieu nous montre quel est notre péché afin de nous conduire à Jésus, qui nous invite à la foi, dont procède l'amour, qui à son tour motive notre obéissance à Dieu. Ça, c'est un raisonnement qui ne court-circuite pas l'évangile. Ça, c'est l'usage légitime de la loi de Dieu. Le christianisme, je termine avec cette affirmation, le christianisme, vous comprenez, n'est pas fondé sur ce que nous devons faire pour Dieu, mais sur ce que Dieu a fait pour nous. Le christianisme n'est pas fondé sur ce que nous devons faire pour Dieu, mais il est fondé sur ce que Dieu a fait pour nous. Amen.